Alors, nous sommes en studio avec Alain Deneau. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Alors, j'aurais presque envie de dire qu'il n'y a plus besoin de te présenter, mais on va le faire quand même. Tu as été bien connu pour le livre Noir Canada, mais je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres choses à ton actif. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu?
Oui, je fais de la recherche en sociologie à l'UQAM. J'ai fait des recherches, des travaux antérieurement en philosophie politique. Qui m'ont amené à m'intéresser aux relations Nord-Sud, mais aussi à la question de la criminalité financière et l'impact, je dirais, des paradis fiscaux et plus largement des législations de complaisance sur la vie démocratique dans ce qu'on appelle les États de droit, quoi, les États traditionnels.
Alors, je t'ai invité aujourd'hui dans l'idée d'échanger sur certaines questions spécifiques des rapports Nord-Sud, spécifiquement du Canada, qui sont d'un côté l'aide publique au développement comme partie de l'aide de la politique étrangère du Canada, mais aussi un peu plus tard peut-être se lancer sur le rôle des ONG et des autres groupes dans ce contexte-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais placer comme contexte sur la politique étrangère du Canada et l'aide au développement.
Ben, je suis ravi qu'on puisse en discuter dans la mesure où j'estime qu'il s'agit de ce dont tu parles, quoi, c'est-à-dire le rôle de la coopération internationale, vous la nommez ainsi, du Canada dans les pays du Sud, est un aspect qu'on n'a pas autant fouillé qu'on aurait pu le faire en écrivant Nord-Canada. Donc avec Delphine Abbatier, William Saché, on a produit ce livre en 2008. Donc Nord-Canada qui se veut une synthèse de la documentation internationale qui existe à l'échelle mondiale sur le rôle d'intérêt canadien en Afrique, là, essentiellement des multinationales dans le domaine minier, mais aussi dans le domaine... Pardon, dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine du transport ferroviaire et pétrolier et autres. Et en fait, évidemment, on s'est intéressé non pas seulement à des cas, on en a cité plusieurs simplement pour montrer qu'il y avait tout un échantillon de cas qui avait été élaboré par des acteurs, des enquêteurs civiques, des journalistes ou des représentants d'organisations publiques. Et qui faisait état donc d'abus très graves de la part d'acteurs canadiens dans le domaine quant à l'environnement, la politique, la santé publique, la fiscalité, et ainsi de suite, ouais, et même la sécurité. Bon, on sait que, par exemple, dans Sierra Leone, au Congo-Kinshasa ou en Angola, des intérêts canadiens ont pu participer ou attiser des guerres. Bon, c'est ce qui n'est pas rien. Donc, on s'est intéressé à ça, mais simplement pour comprendre ce qu'en était du système qui, au fond, permet une telle exploitation, une exploitation aussi violente. Et donc, on s'est penché sur la bourse, on s'est penché sur le rôle d'acteurs canadiens à titre informel, par exemple, tous ces anciens premiers ministres qui travaillent ensuite pour ou dans des sociétés minières ou pétrolières. Jean Chrétien, Brian Mulroney au premier chef. Et on s'est aussi intéressé à des stratégies publiques visant à soutenir les intérêts miniers et pétroliers canadiens, dont l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, et cette espèce de fonds d'assurance qui est Développement et Exportation Canada, quoi. Ou Exportation et Développement Canada, selon l'appellation retenue. Et ce qu'on voit, c'est au moins deux choses, quoi. C'est d'une part, si on pense à ce que fait l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, une entreprise de marketing, au fond, qui ne dit pas son nom et qui vise à redorer l'image du Canada à l'étranger, précisément là où le Canada pourrait avoir des choses à se reprocher, c'est-à-dire là où l'exploitation minière est polluante, là où un site d'exploitation peut concourir à la corruption politique, à l'évasion fiscale, ou à l'élaboration de politiques qui sont tout simplement nuisibles pour le développement, paradoxalement sous le sceau de l'aide au développement. Là, tous ces codes miniers, par exemple, qu'on développe dans les pays du Sud, ou toutes ces modalités de bonne gouvernance qui visent essentiellement à établir un foyer d'accueil favorable pour le grand capital, sans pour autant que les populations profitent des investissements internationaux qu'il s'agit toujours d'attirer en plus grand nombre. Donc, en fait, le travail consiste à inviter Des honnêtes Canadiens, d'un grand travers à l'autre, là, de Moose Jaw à Chicoutimi, en passant par Waterloo, puis Halifax, quoi, et d'aller chercher des honnêtes Canadiens, tous plus vaillants les uns que les autres, qui vont, je ne sais trop quoi, creuser un puits dans telle région du Ghana, ou ouvrir un orphelinat au Malawi, ou je ne sais trop quoi, je veux dire, développer un petit projet souvent communautaire, ou qui va certes porter ses fruits, je veux dire, on est mieux vaut ça que rien si on est minimaliste, mais qui consiste essentiellement dans une stratégie plus large, peut-on le deviner, à projeter une image complaisante du Canada comme étant le pays ami des droits de l'homme, exemplaire du point de vue de la démocratie, capable uniquement du bien, le proche du genre humain, c'est toute cette espèce de propagande qu'on retrouve, exposée. En premier lieu, quand on se pointe dans les bureaux de l'Agence canadienne de développement international à Gatineau, quand on va à la place du portage à Gatineau et qu'on se présente aux locaux de l'ACDI, ce qu'on voit, c'est des dépliants où on voit chanter, je veux dire, l'œuvre charitable, quoi, de ces grands et vaillants Canadiens qui, d'un grand travers à l'autre de notre pays, je veux dire, s'enquièrent du sort des pauvres dans le monde. C'est une espèce de charité qui, au fond, maintient la pauvreté dans son état d'indigence et ne permet pas des changements de fond. Ça, c'est le premier rôle, l'ACDI. Le deuxième rôle, il est complètement contradictoire, c'est de financer. Et là, quand tu as des volumes d'argent infiniment plus importants, les entreprises canadiennes présentes en Afrique. Acres, dans le domaine du barrage, par exemple, du génie industriel, qui a pourtant été reconnu coupable de corruption, enfin, un de ses agents voyons, j'ai un trou, là, mais... dans un des pays dans le sud de l'Afrique, si ce n'est Transrail au Mali, au Sénégal, qui a contribué à privatiser les chemins de fer, et sans parler de sociétés minières, là, si on quitte l'Afrique, Barrick Gold au Pérou, par exemple, qui tout récemment a reçu aussi des fonds de l'ACDI. Donc on prétend que cette présence industrielle, c'est au Lesotho, le pays, donc je voulais nommer tout à l'heure. Donc, on prétend que cette présence industrielle canadienne aide le développement. Donc, c'est l'espèce de dogme néolibéral là, qui est en cause. Comme on prétend qu'il y a un apport qui est manifeste de la part de sociétés qui exploitent les pays du Sud, mais on va les s'y financer en disant qu'ainsi on aide le Sud. Ouais, donc, il y a comme une sorte de supercherie à l'œuvre qui fait qu'il y a des millions de dollars des contribuables canadiens qui permettent ce développement, non pas des pays du Sud, mais des sociétés canadiennes présentes dans les pays du Sud. Et c'est cela qu'on retrouve au titre de l'aide au développement. Ensuite, quand on dit ben le budget de l'aide au développement, il est de tant de millions de dollars, par exemple, ben, en fait, c'est pas de l'argent qui profite au Sud du tout. C'est simplement une autre façon de canaliser un soutien public à une industrie privée qui n'a pourtant pas du tout besoin.
Puis justement, sur la question de l'image du Canada, depuis quelques années, les critiques envers le gouvernement canadien et ses pratiques à l'international sont rendues un peu plus faciles, je dirais, par une espèce de mécanisme que, comme c'est les conservateurs au pouvoir, c'est plus facile de les critiquer quelque part dans beaucoup d'organisations sociales. Mais notamment, il y a eu quand même quelques changements qui ont été apportés par le gouvernement conservateur, dont au titre... au chapitre de la politique étrangère, le fait de arrimer officiellement les types de financement de l'ACDI aux priorités de la politique étrangère canadienne. C'est-à-dire qu'un pays qui a été peut-être financé, dont des groupes sont financés depuis des années, s'il ne fait pas partie de la priorité annuelle du gouvernement Harper, ne sera donc plus financé dans les petits papiers de l'ACDI, plus d'autres scandales de coupure à des organisations sur lesquelles on pourrait s'étendre plus tard. En quoi est-ce que ça constitue ou pas un changement? Parce que c'est effectivement un changement au sens de l'officialité. Est-ce que c'est juste une continuité logique? Est-ce qu'il y a vraiment un volet de l'ACDI qui servait à la bonne image, qui est même plus à l'œuvre, en fait, en quelque part, ou...
Mm-hmm. Ta façon de formuler la question m'amène à voir quelque chose là qui est à laquelle j'avais pas vraiment pensé avant. C'est le fait que le caractère arbitraire de l'aide canadienne, quand on pense au volet plus communautaire, là, oublions le soutien à des grandes entreprises canadiennes, et ensuite le volet plus communautaire qui est en fait Un volet qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui répond à un principe de marketing d'une part, là, donner une bonne image Canada, mais aussi, je dirais, anesthésier l'opinion publique canadienne en laissant croire qu'effectivement le Canada est vraiment bon parce qu'il fait vraiment des projets des très bons publiquement. Le caractère arbitraire de cette aide, qui est conditionnel effectivement à la politique du commerce international et du ministère des Affaires étrangères, qui est, comme on sait, un ministère agglutiné, hein, et en plus est étalonné sur les politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, parce qu'on sait qu'il y a une dizaine d'années, l'ACDI a décidé de soutenir en priorité les pays qui souscrivaient au plan d'ajustement structurel, lesquels plans, on le sait, concouraient radicalement à leur pauvreté, parce que bon, j'ai pas besoin de refaire toute cette démonstration-là, ça a été fait tant et plus, mais on sait que les plans d'ajustement structurel ont amené les pays à sabrer dans les maigres et rares programmes publics qui existaient, à ouvrir complètement leur pays à la concurrence internationale, alors qu'il n'y a aucune structure qui permet à ces pays-là de jouer ce jeu de la concurrence, quoi, je veux dire. Et c'est sûr que les plans d'ajustement structurel sont des méthodes pour favoriser les multinationales et que ces plans-là n'auraient jamais été appliqués ou adoptés par les pays qui en faisaient eux-mêmes la promotion. Les États-Unis, par exemple, ne se mettraient pas aujourd'hui à ouvrir absolument leurs frontières s'ils n'avaient pas... Ils le font pas, d'ailleurs, dans différents secteurs, d'une part. D'autre part, ils le feraient pas s'ils étaient dans la situation des pays du Sud. Mais enfin, peu importe. Quand on a compris ça, effectivement, que cette aide-là à des plus communautaires, quoi, à des pays, est variable, changeante, versatile, absolument imprévisible, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, nos chefs d'État sont tellement conditionnés par leur formation en économie politique, en sciences politiques, dans des optiques libérales, qu'ils gèrent vraiment l'État comme toute entreprise privée et donc comme une fondation privée. Et on a souvent reproché au modèle anglo-saxon, contrairement au modèle étatiste, disons à la française ou un petit peu quelque part à la québécoise, de laisser en fait le capital jouer le rôle de l'État. En disant, bon, mais par des exemptions d'impôts, on va encourager les entreprises à créer des fondations qui vont, elles, soutenir les systèmes de santé, le système d'éducation, la culture, ainsi de suite. Et effectivement, une fondation créée par une entreprise automobile, par exemple, va soutenir des doctorants dans les sciences humaines, quoi. Comme ça se voit en Allemagne aussi, dans le monde protestant, quoi. On s'est dit, voilà, un modèle qui réussit. Mais la critique, ça a été de dire, ben non, parce que cette aide-là est complètement arbitraire, tout d'un coup. Un fabricant de logiciels va s'éprendre, des baleines, bon, on va soutenir des ONG qui s'intéressent aux baleines, puis 4 ans plus tard, non, ce sera la famine dans tel pays, puis 3 ans plus tard, ce sera autre chose, et l'argent se promène, et il n'y a pas de planification possible pour être un peu constructif dans les projets à long terme. Bon, c'est ce que l'État est en train de devenir, en fait. C'est un État qui, tout d'un coup, comme le mentionne Bonnie Campbell, qui est une femme très, très modérée sur ces questions-là, je veux dire, si elle se met à critiquer, c'est donc qu'il y a matière à critiquer. Je veux dire, dans un article du Devoir du 5 février dernier, ce qu'elle mentionne, c'est que l'arbitraire des listes de pays que l'ACDI soutient ou que le Canada soutient par différents programmes, là, que ce soit Exportation et Développement Canada ou d'autres à l'ACDI, est tellement variable qu'on ne peut plus élaborer des projets à long terme, qu'on ne peut plus prendre pour acquis dans un certain nombre de fonds qui permettent donc d'être constructifs dans les programmes qu'on gère et qu'on initie. Donc ça c'est un des problèmes.
Mais est-ce qu'il serait, puis là je pose la question sans en avoir la réponse ni en sachant si tu l'as, mais est-ce que cette liste de pays serait si arbitraire que ça? Est-ce que c'est pas dire qu'elle est arbitraire, est-ce que c'est pas une façon aussi de déresponsabiliser une politique qui peut être une politique économique impérialiste, là, qui est tout à fait planifiée, elle, sur où aller chercher des ressources, lesquelles s'approprier. Et j'en ai pas fait l'analyse exhaustive, mais en regardant l'évolution des listes de pays soutenus, là, au moins les grands changements majeurs, se dessine quand même une politique étrangère contre l'axe du mal, etc.
En fait, c'est vrai que l'épithète arbitraire est intéressant dans la mesure où on pense aux besoins comme tels auxquels sont censés s'attaquer les programmes communautaires d'aide au développement, là, de type créer un orphelinat, puis creuser un puits, guérir certaines maladies,
maladies, mais ainsi de suite, qui, dont le coût de la guérison est vraiment pas cher, tu sais, pour des pays développés, là, ça peut être 20 $ pour une piqûre, peu importe. Bon, un vaccin. Donc, effectivement, c'est arbitraire quand on considère ces besoins-là, ça ne l'est pas quand on considère que tout d'un coup, l'aide canadienne au développement va se trouver non plus au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, mais au Pérou et en Colombie, parce que là, les Canadiens se découvrent des intérêts et il y a sûrement quelqu'un quelque part d'éclairé qui juge qu'il est pertinent pour le Canada de développer des programmes d'aide à la communauté pour redorer son blason. Donc là, il y a ça d'une part qui est en cause. Et ça suppose, j'aimerais qu'on y revienne, je sais que tu as beaucoup à dire là-dessus, ça suppose quand même un fait de responsabilité très grand de la part des figurants canadiens qui participent à ces programmes-là, d'une manière lucrative, parce que ça devient quand même une source de revenus, puis un gagne-pain. Et il faut savoir que lorsqu'on est rétribué par quelqu'un a intérêt à nous faire faire un certain nombre de choses, et peut-être bien au-delà des mandats officiels. Mais juste avant d'y venir, je dirais un mot, parce que ta question tout à l'heure le soulevait, sur les conservateurs. Effectivement, les conservateurs permettent en quelque sorte de voir le visage diplomatique canadien tel qu'on aurait dû le voir depuis longtemps. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, au fond. C'est un mal pour un bien, disons, si on cherche absolument à se consoler. Si j'en parle, c'est simplement parce qu'un jour, un professeur qui avait dit « J'ai hâte de revoir le Canada avec son vrai visage. » Mais non, le Canada n'a toujours eu que ce visage-là. Le Canada a été historiquement un instrument impérial élaboré par l'Empire britannique pour avoir accès aux ressources naturelles de ce pays-ci au détriment des communautés amérindiennes. Donc le Canada, historiquement, est un pays colonial, prédateur, je veux dire, qui supporte, qui soutient, qui épaule des groupes monopolistiques dans le domaine de la fourrure, dans le domaine agricole, dans le domaine minier. Et il n'a jamais rien eu d'autre que cette qualité impériale et prédatrice qui consiste à faire main basse sur des ressources. Bon, et celle-ci, et aujourd'hui, il sert de paradis réglementaire, législatif et judiciaire pour une industrie qui se sert de ces institutions-là, historiques, coloniales, pour exploiter les pays du Sud par rapport à un ordre mondial là, qui resterait à définir. Bon, mais ce qui me fait peur, moi, aujourd'hui, c'est... Ce qui me fait peur, parce que là où je me méfie, c'est de voir qu'est-ce que diront ceux qui critiquent les conservateurs lorsque les libéraux reviendront au pouvoir, avec cette espèce de discours beaucoup plus, un discours d'opérette, là, beaucoup plus feutré, où on reviendra avec une sorte de prétention au bien, où le Canada retrouvera son masque. Hein, son masque de toutes les supercheries où on dira effectivement qu'on est bon, qu'on est capable du bien. « The world needs more Canada », comme le disent des députés ou n'importe qui très souvent. Il y a même une section dans une librairie centrale d'Ottawa qui a cet intitulé-là, « The world needs more Canada ». On serait des pourvoyeurs de biens, quoi. Et ça va revenir, évidemment, quand les conservateurs seront chassés. Et j'ai bien hâte de voir ce que Bonnie Campbell ou les responsables d'ONG diront à ce moment-là, quand tout le monde recevra sa petite subvention pour faire le bien dans son petit coin, d'une manière lucrative, en pensant à ses vieux jours, à sa maison à Laval, et ainsi de suite. Je veux dire, qu'est-ce que diront les salariés de la coopération internationale ou les subventionnés de la coopération internationale du moment que la propagande habituelle du Canada reprendra ses droits? Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oh, j'en pense que ça ne va pas nécessairement être très agréable, mais justement, ça m'amène sur la question de ce que tu dis sur la question de la mission civilisatrice, là, qui serait comme un continuum historique là, du colon au prêtre, en passant par le député aujourd'hui, avec cette phrase de besoin de plus de Canada. Et justement, cette mission d'aide et cette mission civilisatrice, c'est quand même beaucoup un rôle qui est assumé par des ONG. Puis là, je vais me permettre quand même des nuances et des différences. Il y a les grosses ONG qui sont rendues que des entreprises, en fait, des petites et moyennes entreprises qui vendent du projet de développement, même ça fonctionne par appel d'offres, etc. Puis c'est une critique en fait, j'ai compris l'ampleur de ce phénomène-là en allant à une conférence d'échec à la guerre où ce que des gens d'ONG et d'organismes de coopération internationale critiquaient fortement le rôle qui était amené à avoir les ONG dans le contexte de la guerre en Afghanistan et la militarisation totale, en fait, de l'aide et des ONG, et comment les ONG se trouvent à être dans les bases militaires, à fonctionner avec les militaires au jour le jour. Alors ça a beaucoup choqué. Et soudain, quelqu'un s'est levé dans la salle pour dire « Oui, mais c'est juste sans le masque. » C'est ça qui arrive d'habitude, puis c'est juste sans le masque, et ça arrive ailleurs. Et c'est une critique qui est difficile à amener, parce que c'est se lever contre le bon sens, le bon sentiment, la vertu, la charité et toutes ces choses en même temps. Et donc, je sais pas comment réussir à faire voir l'importance de cette prise de conscience-là sans nécessairement verser dans un « tout est mal » et « il n'y a point de solution ».
C'est le problème de la perversion, qui est un gros, gros problème sociologique aujourd'hui qu'on arrive mal à poser. Quand on n'est pas pervers, foncièrement, là, comme personne, et qu'on voit qu'il y a des problèmes d'injustice sociale, des problèmes de santé publique liés à l'industrialisation de pratiques, ainsi de suite, dans les pays du Sud. Bon, on est révolté, sincèrement, par rapport à ça, ou en tout cas, on est préoccupé, on est indigné, on est taraudé, bon. Et par ailleurs, on est démocrate. On croit aux institutions, on croit à l'ordre public, on croit en une forme imparfaite, mais bon, manifeste de démocratie, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers son gouvernement. On se tourne vers l'autorité publique qui a sa légitimité, puis on voit comment ce gouvernement-là, qui est censé veiller au bien commun, peut pas nous aider à faire bonne œuvre dans les pays du Sud pour restaurer le bien, parce qu'on estime que, il s'agit de la visée du gouvernement de... soit de lui-même initier des projets pour mener des politiques qui correspondent à ses prétentions. C'est bien ce dont il s'agit par rapport au Canada, la prétention à la justice sociale, au bien, au développement, à l'amitié entre les peuples, à la paix, bon, tout ce charabia, ou bien à soutenir des individus qui, eux, cherchent à le faire. Bon, le problème, c'est que le gouvernement est corrompu. C'est que le gouvernement, canadien, là, en l'occurrence, est de fait... officieusement, un lobby de l'industrie minière mondiale. La diplomatie canadienne dans les pays du Sud soutient coûte que coûte son industrie, va même pratiquer des méthodes qui ressemblent drôlement à de l'ingérence politique, ou en tout cas d'une mise sous pression très, très sérieuse, quand il ne s'agit pas à la Banque mondiale de développer des codes miniers qui ressemblent drôlement à celui du Québec ou de l'Ontario, qui sont des codes miniers coloniaux hérités de l'époque du Dominion. Là. Bon. Donc, on se trouve dans une situation où on demande à un gouvernement perverti de nous soutenir. Et donc, le gros problème de la perversion, au sens psychologique, au sens social, au sens économique, hein, c'est un gros, gros problème, c'est que le pervers n'est pas manifestement le sujet des maux qu'il suscite. Il travaille sur une objectivation des structures. C'est-à-dire qu'on plante un décor, en fait. Quand on est un pervers habile, on institue un ordre objectif dans lequel tous n'auront pas le choix de se mouvoir et auxquels tous ne pourront pas ne pas se référer. Et donc, on rend les gens en quelque sorte partie prenante d'une structure de vie qui devient intimement la leur et qui est, qui est en quelque sorte conçue pour fonctionner mal à propos par rapport au dessin qu'on peut avoir. Et l'œuvre du pervers, c'est d'être en quelque sorte le bénéficiaire de cette structure-là sans qu'il en paraisse le sujet, l'initiateur, l'élaborateur. Il faut que l'élaboration vienne de ceux qui ont été coincés dans une structure objective. Et là, on laisse les Canadiens aller dans les pays du Sud, vanter le Canada, se présenter fièrement comme Canadiens, creuser des puits, pendant qu'en marge de tout ça, être les figurants heureux d'une mascarade évidente, pendant qu'à côté, les entreprises canadiennes jouiront des retombées symboliques de cette image améliorative du Canada. Donc là, il y a tout un problème de responsabilité qui est inouï, parce que c'est celui d'une prise de conscience grave quand on est confronté à des pervers. Et très souvent, dans nos relations interpersonnelles, quand on sait qu'on est devant un pervers, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est de s'en aller. C'est de dénouer tout lien, tout simplement parce que le pervers, celui qui fait flèche de tout bois, c'est quoi, si on le conteste, il va s'en servir. Si on le flatte, il va s'en servir. Si on essaie de le manipuler, il soit plus fort parce qu'il a structuré les rapports de sorte à ce qu'il lui profite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'État lui-même est perverti et qu'on est en quelque sorte un élément de sa stratégie, quand on se trouve sur son échiquier comme un pion, c'est un vrai, vrai problème qui suppose de la combativité, des initiatives, de l'imagination, de la pensée critique, des innovations, beaucoup de courage. Et effectivement, c'est pas étonnant que ce soit seulement une minorité qui fasse preuve de tout ça.
Puis si on pense aux militants ou aux salariés de la coopération internationale, parce qu'il existe tout de même des militants, il y a cette idée d'aller chercher l'argent là où il est, d'aller récupérer l'argent des impôts pour faire les choses autrement, pour essayer de se créer des espaces dans les interstices des formulaires de reddition de comptes, etc. Il y a toutes ces stratégies-là qui sont mises à l'œuvre. Alors, où est-ce qu'on sent, pour avoir travaillé dans des milieux avec des subventions et des redditions de comptes, c'est quand même une petite impression de nœud coulant, là, d'un nœud qui se resserrait au fur et à mesure qu'on s'agite. Il y a ça d'un aspect. Il y a un autre aspect qui est essayer donc de se distancier par ailleurs de ce qui se fait, sans trop, sans, etc. Puis il y a aussi le fait de dire, mais il faut le faire. Si personne le fait, si personne va critiquer le gouvernement, si personne va en quelque part utiliser tous les outils démocratiques à leur disposition pour finir par dire que ça ne fonctionne tout de même pas, à ce moment-là, comment le faire? Fait qu'il y a vraiment cette idée de fonctionner dans la machine pour en faire voir les limites et potentiellement les dépasser. D'un autre côté, il y a d'autres gens qui se complaisent un peu dans ce qu'on pourrait appeler une gouvernance, là, pour utiliser des nouveaux mots que plus personne ne sait trop ce que ça veut dire, qui est donc l'idée de ces ONG qui vont être les quelques 2000 ONG qui ont le droit de siège à l'ONU et qui sont majoritairement des pays du Nord et qui ont le droit de parler au nom de la société civile et de tout le monde. Fait qu'il y a un peu ces deux éléments qui cohabitent parfois dans les mêmes personnes d'ailleurs. Mm-hmm. Comment tu vois cette partie-là de l'échiquier?
C'est là où je vois qu'on est coincé, parce qu'effectivement, on a tout à fait raison d'estimer que les deniers publics appartiennent à tous, même si on confie leur gestion à un exécutif qui se trouve par le concours des élections à provenir d'une classe sociale très, très précise. Et d'autre part, effectivement, cette exigence de liberté qu'on doit avoir envers soi-même quand vient le temps d'agir précisément sur ces questions-là. Si l'ACDI a droit de regard sur les documents qu'on produit, pas sous prétexte qu'elle nous a donné de l'argent, et qu'on convienne des politiques canadiennes parce qu'elle nous a donné de l'argent, il y a un gros, gros problème. Et je pense que là, il faut à tout le moins intruser, faire preuve de désobéissance civile, et surtout, et c'est là sur le problème de la gouvernance, parce qu'on pourrait faire 14 000 émissions juste sur la gouvernance, tellement c'est un problème aujourd'hui, mais seulement sur cette question-là, ce qui me gêne beaucoup chez ceux qui touchent à l'argent et qui finissent par goûter quand même au plaisir sélect de l'élection au sein des participants des cercles de la gouvernance, c'est qu'on finit à un moment donné par intérioriser des discours qui sont des discours unanimistes, qui sont des discours consensuels, qui sont fabriqués par des sémanticiens qui proviennent autant des officines gouvernementales que de l'industrie, que de fondations privées, que de communautés qui sont aux abois pour des miettes, ainsi de suite. Et on finit par tellement intérioriser ce discours-là qu'on parle dans une langue de bois qui devient le propre de son discours, d'une part, et d'autre part, on se finit par attaquer ceux qui ne parlent plus comme nous. Ceux qui devraient être des compagnons de route, qui, eux, ont gardé leur liberté, font preuve de pensée critique, élaborent des discours à partir de leur propre réflexion, et qui se trouvent en quelque sorte attaqués par ces agents de la gouvernance, quoi, qui ont en quelque sorte, qui sont comme ça aliénés dans une façon particulière de parler. Et là, il y a quelque chose de gênant parce qu'on assiste à un phénomène qu'on appelait dans les années 1940 en France la collaboration. C'est que là, on finit par flirter avec une sorte de pacte avec ceux ceux qu'on est censé finalement critiquer parce qu'ils nuisent à ce qu'on estime être nos convictions, enfin, les projets politiques qu'on se donne. Et donc, c'est cette espèce de jeu ambigu qui peut y avoir entre là d'où on vient et ceux avec qui on fricote, là, pose vraiment problème. Et ça, c'est à tout le moins un piège qu'il faut nommer. Hein.
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'en faisant des recherches sur le discours des ONG, puis là, encore là, je fais un gros paquet, mais il y a bien des choses qui rentrent là-dedans. C'est intéressant de voir que sur certains dossiers, les critiques adressées au gouvernement écrites sur le site web d'une ONG sont moins fortes que les critiques que le gouvernement peut s'adresser lui-même sur son propre site. Par exemple, sur la question des compagnies minières, évidemment, il y a des pages et des pages et des pages de bonheur en barre là, des compagnies minières canadiennes. Mais il y a aussi des éléments critiques sur les questions environnementales, etc., sur lesquelles il faut avancer ensemble à améliorer. Et les critiques qui sont adressées dans le discours du gouvernement finit par être plus fort que celui des ONG. C'est ce moment donné qui nous fait nous rendre compte que, justement, cette espèce de langage acceptable qui doit être utilisé, langage acceptable qui est utilisé pour deux choses, pour être entendu par le gouvernement, pour être crédible auprès de la population. C'est vraiment ce genre de discours-là qu'on entend. Puis ça amène vraiment à une réduction des types de revendications, puis en fait à l'abandon total du rôle même de revendication pour devenir un espèce de conseiller. Et beaucoup d'ONG voient leur rôle comme améliorer les pratiques de droits humains du Canada, améliorer des endroits où il y aurait des erreurs, comme un agent extérieur qui aurait un point de vue sur les pratiques du gouvernement et qui pourrait lui pointer qu'est-ce qui est approprié ou non, qu'est-ce qui est une erreur ou non. Et donc, ça amène cette question de l'erreur. Puis je voyais tantôt, tu parlais de corruption, où il se passe la même chose qu'avec le mot arbitraire. C'est ces mots-là de l'erreur ou du « ah, ça aurait pas dû » qui ont tendance à venir à légitimer comme si pour de vrai, le rôle de la politique étrangère était de faire le bien, comme si c'était un problème de corruption, comme si c'était un problème d'une erreur. Et à ce moment-là, les groupes de coopération internationale, les ONG, avec toutes les bonnes intentions du monde, deviennent simplement des examinateurs là, ou des surveillants de la situation. Et de mon point de vue, ça les empêche de voir le portrait complet, et ça les empêche d'adresser les critiques nécessaires, et donc ça amène à proposer des réformes aux lois sur les mines pour que les compagnies minières, comme avec le projet de loi C-300, doivent respecter les normes écologiques à l'extérieur. On peut pas être contre la vertu, personne serait contre, on peut pas être contre ça, mais on peut par exemple dire que c'est absolument insuffisant, puis que ça changera sans doute rien.
Oui, c'est toujours... Il y a tellement d'éléments dans ce que tu dis. On nous sert toujours cette idée que c'est un pas dans la bonne direction. Mais le problème, c'est qu'un pas, c'est pas une direction. Si on fait un pas et aux 28 ans, ben, y a une course contre la montre qu'on risque de perdre, là, parce que c'est pas... Une course, c'est autre chose qu'un pas. À un moment donné, il y a même les métaphores trahissent en quelque sorte la vanité de ce qui est obtenu. C'est souvent d'ailleurs des bouts de papier, des promesses, des usures. Il y a une chose qui compte, au fond, et qui devrait être la seule sur laquelle on s'appuie pour évaluer la pertinence d'une action politique, éthique ou autre, c'est les changements probants dans l'histoire, point. Est-ce qu'il y a plus de fonds dans les budgets voués aux services publics dans les États africains? Non, alors ça marche pas. Est-ce qu'il y a moins de maladies? Non, alors ça marche pas. Est-ce que le revenu par habitant augmente? Non, alors ça ne marche pas. Qu'on cesse de nous dire qu'on a obtenu une directive, une mesure, un formulaire, une promesse, tout ça, ce sont des mécanismes pour gagner du temps de la part de ceux qui jouissent du dérèglement du monde, bon, à leur avantage. Donc, ces façons de se consoler, de s'auto-congratuler quand on fait partie d'ONG, qu'en fait, on se fait rouler dans la farine quotidiennement, ça, c'est un problème. Et en fait, c'est pour ça que je parle de collaboration, c'est que ceux qui finissent par s'auto-congratuler en sont finalement dans une sorte de logique électorale liée à leur propre élection comme mandataire, quoi, à faire valoir les bénéfices de leur action auprès d'une base hein, qui doit leur accorder leur suffrage. C'est un des problèmes. L'autre problème du consensus, là, que la magie du consensus dans les cercles de la gouvernance, c'est d'amener les acteurs à penser dans des termes pervertis qui court-circuite tout de suite la critique. C'est qu'on est tout de suite obligé de penser, comme tu le disais, par rapport à des prérequis, par rapport à des prémices, par rapport à des postulats qui sont, qui font fausse route, qui nous font faire fausse route. Ça, c'est un problème. Quand on lit l'Institute on Governance, par exemple, qui est un think tank d'Ottawa, visant à expliquer aux acteurs publics comment fonctionnent les relations de pouvoir au nom de la gouvernance, on constate qu'il y a deux concepts, en fait. Il y a governance. Hein, la governance, qu'est-ce que c'est? C'est de voir l'État comme une sorte de menace et de s'assurer qu'il soit flanqué d'acteurs aussi puissants que lui, qu'il ne soit pas lui. Donc l'État n'est même pas représentatif de rien. C'est comme une clique, une sorte de pouvoir pour lui-même. Et à côté de ça, on va mettre les citoyens, les entreprises, les acteurs, la société civile, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'en disait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Là, tu sais, c'est plus du tout une instance souveraine qui trouve, en quelque sorte, à forger des institutions à son image. Ce sont des partenaires, au contraire. Bon, ça, c'est la gouvernance. Ensuite, il y a un autre concept qui est amusant, qui est la bonne gouvernance. C'est la gouvernance, mais la bonne gouvernance. Qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, elle survient quand les acteurs qu'on choisit pour négocier autour d'un projet sont les bons acteurs. Non, bon, c'est ça la bonne gouvernance, excusez la tautologie, mais la bonne gouvernance, c'est quand on trouve les bons acteurs. Les bons acteurs, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui croient en un projet. C'est des winners. C'est ceux qui vont penser que les mines, c'est super, ou que le pétrole va être exploité, ou qu'il faut développer tel secteur forestier. Ou non. Et là, on va mettre ensemble ceux qui y croient. Donc, les écologistes qui y croient, les membres de la communauté qui y croient, les ONG qui y croient. Et donc là, on attire, en fait, les personnes qui sont susceptibles de faire fonctionner un modèle, quoi, un projet. Et en disant bien un peu plus loin que pour les ONG, c'est nécessaire pour leur propre survie de faire partie de ces tables de concertation-là. Parce qu'elles ne seront rien, sinon elles ne seront pas reconnues, elles n'auront plus d'argent, elles n'auront pas de visibilité, et ainsi de suite. Donc là, on voit comment le mécanisme de perversion, qui est à l'origine même d'une prise de position, quoi, qui en quelque sorte coince les acteurs dans un certain discours, fonctionne. On voit très bien à travers ces modalités-là. Et c'est là qu'apparaît chez les acteurs qui sont censés être critiques, mais qui sont simplement des faire-valoir à la fin, quoi, qui sont simplement des penseurs de service, là, des gens critiques de service. On voit comment s'installe l'autocensure. Et ce qui est magnifique là aussi dans l'autocensure, c'est que l'autocensure, elle est toujours plus efficace que la censure. Non seulement parce qu'elle permet à la censure de se censurer elle-même, ce qui est pas mal plus intelligent pour un régime que sous les nazis, quand il y avait officiellement le bureau de la censure, là, c'est le bureau de la censure qui décrivait, donnait son blanc-seing à des projets de cinéma ou de livres, et ainsi de suite. L'autocensure permet à la censure de se censurer elle-même, mais en plus, c'est que l'autocensure va toujours un peu plus loin que la censure, parce qu'on se donne toujours une marge. Si on devine qu'on ne peut pas dire telle chose, ben on va s'abstenir un petit peu avant pour s'assurer que vraiment le coup près ne tombe pas. Donc on en fait toujours un petit peu plus, il y a comme un volontarisme là, qui s'observe d'un point de vue plus psychologique, là, qui fait qu'on ne dit vraiment plus rien. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas ce que tu dis, là, qu'à un moment donné, le pouvoir va se critiquer lui-même plus allègrement que ceux qui nécessitent de s'auto-censurer pour s'assurer d'être à la table où il pourra avoir de la légitimité, de la représentation, une sorte de reconnaissance, des subventions, ainsi de suite. Là.
Alors, peut-être dans une tentative de nous diriger vers une conclusion, toute temporaire qu'elle soit, peut-être justement que cette question de l'autocensure finit, et puis cette question de la bonne gouvernance, donc qui amène, en fait, à toute fin pratique, qui élimine toute possibilité de critique, puisque le simple fait d'être critique rend illégitime la présence dans un lieu décisionnel, fait que c'est en fait, c'est un des miracles, comment faire fonctionner la démocratie, éliminer ceux qui sont pas d'accord. Est-ce que ça serait pas justement ça, en fait, qui mène plus au fatalisme? Est-ce que ça serait pas ça une des réponses? C'est le fait que se complaire dans ce système-là, c'est lui qui crée cette apathie qui semblerait se manifester par l'absence électorale selon certains journaux, mais qui pour moi se manifeste ailleurs, là, dans une espèce d'apathie généralisée, de refus, de penser que les choses peuvent être différentes, puisque si toute critique est par définition ne peut être valide que si elle est absente et que si elle n'est pas exprimée, ça coupe un petit peu le cours à toute possibilité de changement.
Ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que bon, ceux qui choisissent de se prêter à ces jeux de la bonne gouvernance peuvent bien le faire, et au fond, peut-être que ce n'est pas plus mal, puisque ces cercles-là existent, que des gens sensibles à certains enjeux y soient, ne serait-ce que pour entendre ce qui s'y dit. Bon, pourquoi pourquoi pas, si bon, disons que la question n'est pas tout à fait là, on pourrait toujours se dire que la chaise vide dans ce type de forum serait aussi une bonne stratégie, mais peu importe. Au-delà de ça, le problème, c'est quand ces acteurs-là, qui deviennent effectivement puissants, qui sont en vue, qu'on finit par citer, parce que le pouvoir leur donne comme ça, accès à une parole publique privilégiée, puis bon, ils sont donc du coup en vue, puis il y a comme une économie médiatique qui se met en branle, où, bon, plus on est cité, plus on nous cite, bon. Mais ces gens finissent par censurer ce qui ne leur ressemble pas dans leur camp supposé. Là, c'est là où il y a vraiment un problème. Quand quelqu'un nous dit « ne dites pas que la bonne gouvernance, c'est mauvais, ne dites pas que le forum auquel je participe mène à rien, ne dites pas que les politiques étrangères canadiennes ne sont pas bonnes, ne dites pas que vous êtes contre les mines, ne dites pas que vous êtes contre l'exploitation pétrolière, ne dites pas que vous êtes contre la présence canadienne en Afrique, ne dites pas que vous êtes contre les budgets d'aide au développement. » Et là, on se finit par retrouver quelqu'un dans son camp qui est le porte-parole du consensus initié dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, avec un rapport de force tout à fait inégal, quoi. Bon. Ça, c'est vraiment un gros, gros problème, parce que quand on en est là et qu'on vous lit le quotidien La Presse, le Journal de Montréal, nous dire qu'il faut être d'extrême-centre et que tout ce qui n'est pas dire au centre est sale, pue, indigne, hein, aujourd'hui faire de la politique, dire faire la prière en croix à la manière d'une manière archaïque, pour croire en est, c'est comme quelque chose de privé, quoi. C'est comme jouer aux échecs, c'est comme on a comme que ça filtré tout ce qui n'est pas de l'ordre de la petite pensée centriste, tiède, confortable, là, comme étant de l'ordre d'une pratique privée qui regarde donc vraiment l'intimité. Donc si on dit bon, je suis anarchiste, je suis de gauche, ceci, cela, aujourd'hui c'est même pas reçu comme quelque chose qui participe d'une vie publique, mais ça reste quelque chose de privé, quoi. C'est ton opinion, garde ça pour toi, puis comme quelqu'un qui va être passionné du backgammon va en faire son hobby privé, quoi. On a filtré tout ça. Donc ça, c'est un des problèmes que je rapporte, je fais court, là, au problème de la corruption, dans un sens là, qui excède vraiment le phénomène des petites enveloppes brunes, puis la façon dont le Parti libéral du Québec peut se servir des garderies pour s'enrichir, je sais trop quoi, mais au-delà de ces pratiques là, corruptrices classiques, quoi, la corruption au sens là, d'Aristote, hein, c'est de dénaturer tellement une chose qu'on ne la reconnaît plus. Et l'état de la corruption aujourd'hui dans les universités, dans les institutions politiques, dans les institutions publiques, elle est de cet ordre. C'est qu'on a les dépositaires de nos institutions publiques sont tellement formés selon une idéologie ultra-libérale qu'ils ne savent même plus eux-mêmes quels sont en quelque sorte les ressorts historiques de leur propre lieu de gestion. Ouais. Eux-mêmes ignorent au fond quelle est la généalogie et la motivation initiale des lieux dont ils sont censés garantir le sérieux. Donc là, il y a un problème là, de fond qui concerne la vie publique. Et quand on en est au stade où les institutions sont méconnaissables, ben, ce qu'il faut faire, c'est donner un coup de barre historique pour les fonder à nouveau. Puis les fonder à nouveau, ça s'appelle... on sait comment ça s'appelle.
Merci beaucoup, ça me semble une très bonne conclusion.
Merci.